Voyage Cast, épisode 28, Eric Lange et Allô la planète. Ah, quelle musique, c'était The President of the United States, que je prononce affreusement, qui nous faisait Video Killed the Radio Stars, qui va donc très bien avec notre épisode puisqu'on va parler de radio avec Eric Lange. Eric Lange, ça vous dit quelque chose? Allô la planète? Si je vous mets ça par exemple.
14h, 15h. Allô la planète sur le Move avec Eric Lange.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Allô la planète jusqu'à 15h comme chaque jour. Pour discuter du monde avec ceux qui y habitent, c'est vous, vous êtes éparpillés un peu partout, vous vous sentez seul dans un désert lointain, dans une immense cité qui n'est pas la vôtre. Eh bien non, vous n'êtes pas seul, nous sommes là. Une heure pour discuter avec tous ceux qui vivent un peu partout sur la planète. Pour nous joindre, la page Facebook est ouverte, JVJ suit.
C'est bon, vous le remettez? Allô la planète et Eric Lange, c'est une magnifique alchimie entre le voyage, la compagnie, les échanges et la découverte. Une émission que vous devez forcément connaître si vous aimez le voyage ou que vous êtes vous-même voyageur, vous y êtes peut-être même déjà passé. Chaque fois que j'écoute l'émission, je me pose une question. Mais qui est ce gars qui interroge toutes ces personnes, qui semblent connaître tout le monde autour du monde, que ce soit au Maroc, en Argentine, au Brésil ou au Nicaragua? On dirait qu'il connaît tout le monde, qu'il connaît tout et qu'il a déjà presque tout visité. Eh bien cet homme, j'ai voulu l'interroger, c'est assez court, non vous ne saurez pas tout sur Eric Lange, mais vous en saurez déjà un peu plus, et vous saurez un peu plus aussi sur l'émission d'Allô la planète, son futur, ses idées, comment ça va marcher. Je vais pas faire plus long, Eric Lange et Allô la planète, c'est sur Voyage Cast. Bonne interview.
Dites-moi, ça vous fait quoi d'être qu'une voix?
Ben pour mon métier c'est plutôt pratique, non?
Et la télé, ça vous a jamais tenté?
Vous savez, moi on m'en connaît, mais je travaille. Hein.
C'est dommage. Non, moi, je vous verrais bien, la télé. À présenter le journal, par exemple.
Bah, plus tard, peut-être, quand je serai fatigué.
Ok. Alors, salut, Eric. Comment tu vas aujourd'hui?
Bah, écoute, ça va bien, et toi?
Mais super, bah, content de t'avoir sur Voyage Cast. Alors, on a assez peu de temps et on va donc profiter de te poser directement les questions. Alors, déjà, qui es-tu et d'où est-ce que tu viens?
Oulala, qui je suis? Animateur radio, donc depuis une trentaine d'années. J'ai commencé dans les années 80 à Skyrock. 86 exactement, pour tout dire. Et l'histoire de... Oh, j'ai travaillé dans Skyrock, après je suis parti au Maroc, j'ai travaillé à Midi 1, qui est une radio d'information à Tanger. Après je suis revenu, là j'ai bossé à RFM en France, je faisais de l'animation musicale. Après, je suis parti, j'ai fait un tour du monde où je me baladais un peu partout et je racontais des histoires sur Fun Radio à l'époque. Ça a duré un an. Après, je suis revenu. Là, j'ai rebossé pour RFM, faire de l'émission musicale, puis je m'ennuyais. Je suis reparti de nouveau. Là, ça a duré 4 ans. 2 ans avec Skyrock et 2 ans avec Fun de nouveau. Là, c'était en direct par téléphone. Je trouvais des téléphones et j'appelais, je racontais les carnets de route, si tu veux, pendant 4 ans. Au bout de 4 ans, je me suis arrêté à New York et là, j'ai fait une émission. C'était sur Fun aussi. C'était à 6h, 7h du matin en France. Et moi, j'étais là-bas à New York dans un studio. Après, je suis rentré en France. Là, j'ai refait de la radio pour Fun, Europe 2, RFM. Et après, j'ai eu l'idée d'Allô la planète. Et j'ai eu un peu de temps, j'ai mis un peu de temps avant de pouvoir la placer, parce que c'est assez compliqué à expliquer au patron de radio l'intérêt d'une émission où des gens qui sont un peu partout dans le monde échangent sur une seule et même émission. Et puis finalement, c'est France Inter qui a plongé. C'était il y a 7 ans. Je l'ai fait 4 ans sur France Inter, et puis là maintenant, depuis 3 ans sur le Move. Enfin, c'est un résumé, hein, parce qu'après...
Ouais, c'est un joli résumé. Alors, peut-être, petite question, pourquoi est-ce que tu as commencé à voyager? Qu'est-ce qui t'a attiré dans le voyage en premier?
Juste parce que c'était là. J'ai toujours eu envie de partir depuis que je suis tout petit. Mon premier voyage devait avoir 16 ans. J'étais parti en Tunisie. À l'époque, c'était toute une expédition. Il fallait prendre le train jusqu'à Marseille, prendre le bateau, etc. Et puis après, en fait, j'ai jamais arrêté. Je me suis toujours baladé. pourquoi, il n'y a pas vraiment de raison en fait, parce que, voilà, parce que c'est là, parce que c'est facile, parce que c'est faisable, parce que j'avais envie, j'ai toujours envie d'ailleurs, mais là je suis un peu coincé en studio, parce que ça me semble évident en fait, voilà. Et puis beaucoup d'écrivains, quand j'étais môme, je disais tout, Kessel, Albert Londres, Kipling, les grands reporters, tout ça, j'adorais les trucs de voyage, j'ai toujours aimé ça.
Ok, ben écoute, c'est pas mal comme question déjà. Dans les destinations, qu'est-ce qui t'intéresse plutôt ? C'est la destination elle-même ou c'est les rencontres que tu vas y faire ?
Ce qui m'attire le plus, c'est d'être sur la route. En fait, je crois que ce qui est le plus excitant, pour moi, après chacun son truc, le plus excitant dans le voyage, moi, c'est juste le moment où t'es sur la route, quelle que soit la route, et plus personne ne sait où tu es, tu donnes pas de nouvelles, tu vas où tu veux, comme tu veux, t'as pas de rendez-vous, t'as pas besoin de... Tu fais ce que tu vois là, tu dis tiens, je vais aller au nord, tiens, je vais aller au sud, tiens, je vais aller là. T'es tout seul, t'es peinard, t'es tranquille, t'es libre. En fait, c'est la liberté, moi, je crois qu'il est mieux. C'est la route en elle-même qui offre la liberté. Et ça peut être n'importe où. Mais d'instinct, je suis plus attiré par l'Orient.
Ok, quel pays exactement en Orient ?
Dès que t'arrives vers l'Inde, et puis l'Asie du Sud-Est, Thaïlande, Vietnam, Cambodge. Les pays arabes aussi, j'aime bien. Plus cette partie-là du monde que... J'ai remarqué un truc dans les gens qui voyagent ou qui aiment le monde, ou qui aiment se balader comme ça. Il y a souvent deux écoles, il y a des gens qui sont attirés, on ne sait pas trop pourquoi, instinctivement, aller vers l'Est, vers l'Orient, et d'autres vers l'Ouest, vers l'Amérique et l'Amérique latine. Et moi, c'est plutôt l'Orient, ouais, l'Asie, en fait. Pourquoi, je ne sais pas. Dans une autre vie, je devais... C'est comme un... Tu sais pas trop, tu te sens à l'aise dans des endroits et tu sais pas trop pourquoi. Moi, quand je suis arrivé en Asie la première fois, ou la première fois aussi que je suis arrivé dans le Maghreb, je me suis senti à l'aise tout de suite. Et pourquoi, j'en sais rien. Voilà.
Et ça te manque pas, alors avec Allo la planète, c'est vrai que tu es statique à Paris, on va dire, ça te manque pas de voyager justement, d'être sur la route ?
Ben si, mais alors la chance que j'ai, c'est que j'ai deux passions qui se valent, c'est d'un côté la radio et de l'autre côté le voyage. Donc si je voyage pas et que je fais de la radio, je suis quand même content. Mais là ça me manque un peu, ouais, ça me manque un peu, il va falloir que je fasse quelque chose.
Et la radio ? Pourquoi la radio ? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce média ?
Je sais pas, c'est super excitant. Il y a un côté magique où t'es là, t'es tout seul, enfermé dans une pièce, tu parles dans un micro et le monde entier t'entend. Je sais pas, je trouve ça magique, complètement magique. Il n'y a pas d'image. Il y a un canté fantasme comme ça. Puis c'est le média le plus démocratique et le plus populaire du monde. La radio, il y en a partout, avant Internet, avant la télé, avant les journaux, tout ça. La radio, le gars au fin fond du désert, il a une radio. Tout le monde. Et je sais pas, et puis il y a le côté, c'est vraiment, t'es dans le studio où la lumière rouge s'allume, t'es tout seul dans ton coin, tu parles, tout le monde t'écoute. C'est un métier de schizophrène, mais j'adore parce que tu t'enfermes tout seul pour planquer du monde dans un studio où personne te voit, et en même temps, tu dis au monde entier de t'écouter. Enfin, c'est un peu bizarre, mais j'adore ça. Je trouve ça, c'est une drogue dure, hein, je trouve.
Ah ouais, je vais pas te contredire, c'est vrai que c'est génial.
T'as vu, hein, c'est...
Ouais, c'est ça, moi, les relations, moi je trouve, c'est vrai que comme tu dis, il y a l'aspect magique aussi de parler avec des gens que tu connais pas et t'as des trucs en commun et t'apprends à connaître tout ça et c'est magique. Ouais. Et toi, t'as l'occasion de parler avec des gens du monde entier, c'est encore plus énorme que le gars qui travaille dans une radio régionale et qui est limité, quoi.
Bah oui, c'est... Cela dit, même il y aura des trucs à faire, même sur les radios locales, hein. Régionales, c'est... C'est la magie de la chose, quoi, qui est excitante. Je trouve ça. Et puis c'est très simple. On a beaucoup complexifié la chose aujourd'hui avec des études, des panels, des techniques, des machins, des chroniqueurs, des trucs. Mais en vrai, la radio, c'est ce qu'il y a de plus simple. Tu prends un gars ou une fille qui a une bonne voix, une pile de disques, un micro, un téléphone, et puis voilà, quoi. C'est bon, c'est parti. On n'a besoin de rien, en fait.
Ouais, c'est vrai. Juste un peu d'imagination, on va dire. Alors, c'est vraiment sympa. Alors, peut-être. Des questions sur toi plus personnelles. Moi, on sent justement quelqu'un qui est toujours motivé, qui a toujours la pêche, qui, même quand les auditeurs viennent te poser des questions, tu les relances toujours, tu leur dis vas-y, continue, essaye. D'où elle te vient toute cette pêche-là parce que tu mets beaucoup de passion dans ce que tu fais.
D'où ça vient ? J'en sais rien. C'est ce que font les auditeurs que je trouve bien. C'est-à-dire que moi, j'adore le côté, c'est ça que j'aime bien dans cette émission, c'est absolument, c'est incroyable quand ils pensent. Tous ces gens qui passent et qui disent voilà, j'ai une idée, et qui la font, ou qui hésitent à la faire, mais qui partent, qui font quelque chose. En fait, ce qui est chouette, ce qui donne l'énergie, c'est d'avoir en face de soi des gens, ou à l'écoute, ou en train de parler avec des gens qui agissent. C'est eux qui ont l'énergie, c'est pas moi. Moi, ils rebondissent sur moi, quoi, pour raconter. Mais ils ont une énergie incroyable, tu te rends compte, les gars, qui partent là faire une sandwicherie à Manille ou le tour du monde sur un vélo couché. C'est le genre d'idée qu'on a tous dans un bar, et puis quand le bar ferme, on rentre se coucher, le lendemain, on l'oublie. Là, ils le font. C'est ça qui donne l'énergie. Et puis là, et puis le métier, alors on revient au métier de radio. Le métier de radio, c'est ça. C'est comme un mec qui est acteur sur scène, un type qui fait un one man show par exemple sur scène tous les soirs. C'est incroyable, tous les soirs, le gars il monte sur scène, il a la patate pendant une heure et demie. Puis comment il fait? Ben, la radio, c'est pareil. C'est le t'es crevé, tu peux voir la pire des nouvelles, tu peux être dans un état, tu peux être malade. Au moment où ça s'allume, la lumière rouge s'allume et que l'émission commence, tu vas avoir la pêche jusqu'à la fin de l'émission. C'est assez étonnant, il y a une espèce de truc, de phénomène chimique qui se passe. C'est que les animateurs radio sont toujours malades le week-end et en vacances, mais jamais quand ils sont à l'antenne. C'est bizarre, t'éternues jamais quand t'es à l'antenne.
Bah, c'est pas faux, j'avais jamais pensé, mais c'est pas faux. Ah, c'est intéressant. Et justement, alors, on va dire en Europe, il y a une sorte de morosité comme ça. Et je trouve que pour ça, des émissions comme Allô la planète, c'est génial parce qu'on ne sent pas cette morosité dans ton émission. Alors, bien sûr, il y a des gens qui sont dans des pays un peu compliqués, qui vivent des situations difficiles, mais il y a toujours cette pêche derrière. Justement, peut-être, est-ce que toi, tu t'investis dans des associations? Est-ce que tu fais des choses pour justement peut-être un peu promouvoir ce côté-là?
Non, moi je suis absolument pas dans le monde associatif, j'ai jamais été. Tout ce que je peux faire passer, en fait, j'ai la chance de pouvoir le faire passer par la radio. J'ai pas besoin d'aller, moi, dans une association pour me sentir utile. J'ai l'impression que quand je donne la parole aux gens à l'antenne, quand je suis là pour les aider, pour les pousser, pour les écouter, je remplis mon rôle, je sers à quelque chose, ouais, entre guillemets, hein, faut pas. Non, j'ai jamais agi, si tu veux, en dehors de l'action que je peux faire grâce à la radio. Je me suis toujours dit, ben, en fait, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour aider des gens, pour faire quelque chose? Ben, fais ton métier, voilà. C'est comme je passerai comme un type qui sait écrire, ou un type qui sait faire des photos, ou un type qui sait dessiner. Tu veux aider les gens, ben, fais ce que tu sais faire. En fait, il faut faire ce qu'on sait faire. Si on veut aider qui que ce soit, il suffit de chercher dans son domaine à soi, je crois. Et quant à la morosité ambiante, oui, il y a une espèce de morosité en Europe, bien sûr, mais justement, c'est là où quand on entend tous ces gens qui se barrent, qui font des choses, on l'oublie, cette morosité. Je me demande toujours si toute cette histoire de morosité ambiante, elle est véridique, elle est véritable, ou c'est à force d'entendre ce qui se passe qu'on devient tous minés. Tu vois, parfois, je me dis, si on passait 24 heures ou une semaine sans rien écouter d'aucun média, peut-être qu'on aurait plus la pêche. Peut-être.
Bah, il faudrait écouter Allô la planète quand même.
À part Allô la planète. Non, mais c'est vrai que c'est rare les émissions comme ça qui sont positives.
Ouais, c'est justement ça que j'adore, moi. Justement, tu vas lundi matin au boulot, t'as pas forcément la pêche. Moi, t'écoutes Allô la planète, t'écoutes des mecs qui sont ailleurs, qui font des projets, qui font des trucs. Je trouve ça génial et je suis sûr qu'Allô la planète, ça a permis à beaucoup de gens qui hésitaient un peu à se lancer dans des trucs plus ou moins absurdes à le faire, justement, parce qu'ils ont vu que d'autres personnes arrivaient à le faire. T'es vraiment vecteur, ouais, de passion, quoi, on peut dire.
Ben oui, c'est ça. En fait, je me rends compte avec cette émission que si tu donnes la parole aux gens, non seulement ils l'apprennent, mais en plus ils ont des choses à dire. Et ils ont la pêche. Et, en fait, si on s'aiguille tous dans la bonne direction, ça marche. Hein. Après, Mais ça, c'est le problème du journalisme, des radios, des médias. C'est qu'il n'y a que les mauvaises nouvelles qui nous excitent. Et j'étais le premier à dire ça et à penser ça. Et tout à coup, cette émission-là me fait penser différemment. Je me dis, tiens, finalement, on peut faire différemment. On n'est pas obligé de regarder toujours ce qui va mal. Ça peut marcher aussi, voilà.
C'est génial, ça, justement. Alors, ouais. D'où est venue l'idée d'Allô la planète comme concept? Parce que ça paraît assez fou, quoi, surtout... Alors maintenant, il y a peut-être un peu plus Internet, c'est un peu plus facile, mais à l'époque, en plus, c'était pas si populaire que ça, quoi.
Ben, en fait, l'idée, elle est venue de l'évidence. C'est-à-dire, quand je me suis rendu compte, c'était au tout 2006, hein, 2000, dans ces années-là, un peu avant, quand je me suis rendu compte qu'on pouvait diffuser du son, des images dans le monde entier, pour pas un rond avec Internet, que les gens écoutaient la radio dans le monde entier, je me suis dit, ben, ça va. Et alors, c'est marrant parce que personne d'autre le pense, mais c'est évident, il faut faire de la radio pour les gens dans le monde. Voilà, ils sont là, ils écoutent, il faut faire une émission avec eux. Voilà, c'est comme le gars qui regarde une montagne qui dit bah, « Elle est là, je vais monter dessus ». C'est normal. Après, c'est vrai que c'est bizarre que personne d'autre le fasse. Ça, je suis d'accord avec toi. Je me dis « Mais comment ça se fait ?» Quand j'ai lancé ça, je me suis dit « Bon, allez, demain, dans toutes les radios, il va y en avoir. » Et puis non, il n'y en a toujours pas. Donc, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que les patrons de radio n'ont pas encore une vision mondialisée des choses. Ou que ça ne les intéresse pas, tout simplement. Mais une radio comme ça, mondiale, ça semble évident, non ?
Bah ouais, moi je trouve ça évident, et dans le podcast on est aussi relativement mondiaux, hein. Enfin, il y a beaucoup de podcasts qui se construisent avec des gens qui viennent de tous les pays, et justement avec internet on peut parler ensemble du même sujet en venant de partout, et c'est vrai que c'est étonnant que les radios le fassent pas, ou la télé le fasse pas, mais bon, il faut peut-être des idées, et puis ils en ont pas toujours non plus, quoi.
Oui, je sais pas, parfois je me dis que c'est peut-être une histoire de rentabilité aussi, tu vois, dans toutes les privées ils ont besoin de... Parce qu'à un moment j'ai essayé de vendre Allô la planète à des annonceurs privés, et je me suis dit tiens, on va prendre des gros, genre Coca-Cola, tout ça, et... des annonceurs mondiaux, tu vois, qui font de la pub mondiale, et ça va être évident, ils vont sponsoriser l'émission mondiale. Et finalement, je me suis retrouvé un jour dans un bureau d'un mec de Coca qui faisait de la pub et qui m'a dit « Non, mais tu te trompes, on ne fait pas de pub mondiale, ça ne nous intéresse pas. On décline tous nos messages publicitaires en fonction du pays et voire en fonction des régions. » Donc finalement, tout le monde a encore une démarche locale et peu globale. Ça va venir, mais ce n'est pas encore global, quoi.
Ouais, bon, je pense que c'est pour eux aussi après difficile de calculer combien de personnes ont réagi à leur truc, parce que comme c'est mondial, c'est compliqué. On a le même problème dans le podcast, en fait, hein. Si quelqu'un met de l'argent, il va dire oui, mais si quelqu'un au Canada, il achète le truc, moi, je le sais pas, comment je fais pour le savoir, c'est compliqué les audiences, hein.
Oui, je sais, mais tu te dis, pourtant, il y a un truc évident, quoi, voilà. Mais ça va venir, hein, je suis sûr que ça va venir. Ça va venir, regarde le cinéma, la musique, maintenant, c'est des sorties mondiales. Donc ça y est, ça commence.
C'est pas faux.
Ça va venir, mais j'ai l'impression que le monde est allé plus vite que nous. Tu vois, oui, c'est mondialisé, oui, le monde entier communique, oui, on peut tous parler les uns avec les autres entre la Chine, le Chili, la Suisse et ce que tu veux. On est tous là, mais dans notre cerveau, c'est venu tellement vite, c'est venu en quoi, en 10-12 ans, là. On a encore le cerveau local. Voilà, on n'a pas encore. Je crois que ça allait plus vite que nous, que notre évolution à nous.
Ouais. Est-ce que t'as idée un peu de combien de gens, parce qu'on s'intéresse pas aux audiences, mais si t'es écouté plus aux radios ou est-ce que t'es écouté beaucoup en podcast? Parce que moi je t'écoute en podcast, par exemple, je travaille pendant que l'émission passe, je peux pas te recevoir parce que voilà, le move est quand même centralisé sur Paris et environ. Est-ce que t'as l'idée un peu justement de comment, qui sont tes auditeurs et comment ils t'écoutent?
Je crois que c'est en train de basculer, c'est marrant parce que je crois qu'il commence à y avoir. Bon, la radio est pas. Quand j'étais à France Inter, évidemment, vu l'audience de France Inter, t'avais plus de monde qui écoute la radio qu'en podcast. Mais ça va basculer. Et là, avec le move, je me demande si c'est pas en train de basculer. Si finalement, il va pas finir par y avoir plus d'audience sur Internet et en podcast que par la radio. Mais pour l'instant, ça bascule pas encore. Mais ça va venir, je crois. C'est dans les années qui viennent, il y aura plus d'audience sur le net que dans les radios, quoi. Mais c'est une histoire de technique aussi. Ça viendra quand on fera des appareils de radio qui peuvent diffuser des radios internet dans les voitures et dans les salles de bain.
Ouais, tout à fait d'accord avec toi. C'est pour l'instant le podcast, c'est encore un peu compliqué pour le non technophile, mais dès que ce sera facile, tout le monde le fera, quoi. C'est tellement simple.
Ah ouais, et puis c'est tellement génial. T'as vu l'offre qu'on a, quoi. Et la liberté aussi. C'est incroyable. C'est ce que tu veux. C'est génial.
Ouais, c'est cool. Ouais, point de vue liberté, justement. Alors, au niveau des auditeurs, une question que je me suis posée, c'est tu reçois des gens de partout qui te racontent plein de trucs. Comment tu as fait pour les trouver au début, ces gens-là? Parce qu'une émission par les auditeurs, c'est génial, mais il faut des gens qui viennent. Alors, la première émission, t'as fait quoi? T'étais tout seul? T'as invité tes potes? Comment t'as fait pour commencer, en fait?
Bah, au tout début, comment on a fait? Bah, tu cherches des réseaux, tu fais dans les réseaux, tu remues tous tes réseaux de copains, tu remues les réseaux des ambassades, des alliances françaises, t'appelles des bars à l'étranger, tu fabriques, quoi. Tu vas chercher les gens là où ils sont, t'appelles dans des facs, t'expliques que tu montes une émission de radio, voilà, tu remues, c'est toi qui remues le truc, et assez vite c'est revenu. Assez vite, le bouche à oreille a fait qu'on a des gens qui sont venus. Puis quand on a commencé sur Inter, il y avait quand même déjà du monde, si tu veux. Qui écoutait la radio. Et ce qui nous a beaucoup aidé ces dernières années, c'est l'arrivée des réseaux sociaux, genre Facebook, Twitter, etc., qui ont une résonance incroyable partout dans le monde. C'est-à-dire que là, tu vois, si je mets demain sur Facebook, je cherche quelqu'un pour, j'en sais rien moi, qui connaît quelqu'un qui a un logement à New York, ça va être diffusé très très vite sur les réseaux sociaux et ça va revenir. Même quelqu'un qui ne connaît pas l'émission, mais qui va recevoir le message via un ami d'ami, tu vois. Ça, Internet est génial pour ça. Mais au tout début, bah, il a fallu prendre le téléphone, les annuaires, et vas-y, quoi, appelle du monde.
Ouais, moi, je trouve ça incroyable. C'est vraiment une idée géniale. Et alors, justement, une question que je me pose encore. Tu reçois beaucoup d'éditeurs qui viennent de partout et j'ai toujours l'impression que tu te rappelles d'eux et que tu les connais, quoi. T'es là, tu dis « Ah ouais, toi, t'étais hier du côté de la Sicile du Sud ou de la Patagonie du Nord. Comment ça va ?» Comment tu fais pour te rappeler de tous ces gens? C'est incroyable.
Secret de fabrication.
Wow. C'est Anka, c'est ça.
Oui, puis tu prépares, en fait, on prépare, tu vois. C'est la clé de la radio, c'est de préparer. Et en fait, on a des listes de gens qui appellent, qui sont là, et puis moi je regarde toujours, je me dis, attends, celui-là, c'est évident que je ne peux pas me souvenir, je dois parler à, je sais pas, 40-50 personnes par semaine, donc c'est évident que je ne peux pas me souvenir de tout. En revanche, je regarde avant d'arriver à l'antenne, ou si la personne arrive directement, je jette un coup d'œil, et je sais à peu près, je dis, ah oui, lui, attends, puis je demande à Annika, elle recherche, ah mais si, et tac, et puis hop, en fait, c'est préparé, quoi.
Ouais, on oublie souvent qu'il y a beaucoup de boulot dans des émissions comme ça, hein. Ouais. C'est énorme ce que vous faites quand même.
En fait, plus c'est préparé, plus on a l'impression que ça ne l'est pas. Tu vois, le
truc. pas mal. Et alors, au niveau des auditeurs, est-ce que tu peux nous dire une petite anecdote, je sais pas, un auditeur spécial ou une situation vraiment spéciale, un truc qui t'a vraiment marqué dans tous les épisodes d'Allô la planète?
Il y en a plein, il y en a plein. Lequel je pourrais te raconter? Il y a eu Séverin, le gars qui était de Côte d'Ivoire et qui était qui faisait ses études en France, à Nantes, ses études d'histoire. Et puis c'était très marrant parce qu'il nous appelait pour raconter la France vue d'un Africain qui n'avait jamais foutu les pieds en Europe avant. Donc ça, c'était assez rigolo parce que c'était Allô la planète à l'envers. Si tu veux, d'habitude, c'est des Occidentaux qui nous décrivent le monde. Là, c'était un Africain qui décrivait les modes de vie français, avec toute la naïveté, la simplicité qui faisait qu'il nous mettait parfois devant des contradictions géniales. Et puis un jour, donc il termine ses études, il retourne en Côte d'Ivoire avec son diplôme en poche, il devient prof là-bas dans une fac, et il est invité, c'est vrai, il est invité à... On garde le contact, il continue à nous raconter des histoires depuis la Côte d'Ivoire. Et puis un jour, il est invité à un congrès d'historiens à Nantes, là où il a fait ses études. Donc, et là, c'était sous les années Sarkozy, à un moment où ils ont serré la vis sur les visas des Africains qui voulaient venir en France. Et donc, il est invité à Nantes à ce congrès d'historiens. Il a tout, le billet d'avion aller-retour, l'invitation. Vraiment, c'était parfait. Mais au consulat, là-bas, en Côte d'Ivoire, on lui refuse le visa. Et donc, il appelle, je me souviens, un jeudi soir, et puis il dira, ou un mercredi soir. Et il me dit, ah, c'est con, je peux pas venir, je peux pas aller à mon congrès parce qu'il y a pas de visa. Et moi, en déconnant à l'antenne, je me dis, c'est à l'inter. Je dis, si quelqu'un nous écoute et connaît un ministre ou quelqu'un qui peut intervenir, il faut filer son visa à ses mains. Et on rigole comme ça. Et figure-toi que le lendemain matin, il a été appelé chez lui par le consulat. Et il a eu un visa de 5 ans pour venir en France, visa renouvelable. On n'a jamais su qui était intervenu pour lui filer ce visa.
Ouais, c'est énorme ça comme histoire. Comme quoi, t'as vraiment un joli panel de gens qui t'écoutent et qui te suivent, quoi.
Ah ouais, non, c'est marrant. Et puis sinon, il y a eu plein d'histoires marrantes. Le type qui était en panne en bateau, il était avec un bateau au large de Bali. Et le moteur du bateau est cassé. Et le gars, il a comme idée d'appeler Allô la planète pour savoir si quelqu'un peut l'aider. Et moi, je me retrouve à Paris avec un type sur un bateau à côté de Bali qui m'appelle pour me dire comment je peux faire, j'ai mon moteur en panne. Et ça m'a fait rire. Je me dis, mais tu m'appelles moi à Paris pour ça? Je dis, bon, allez, faisons la bouteille à la mer. Et bien, figure-toi qu'il y a un type qui écoutait en France, qui avait quelqu'un de sa famille, qui bossait au Club Med de Bali, et du coup, il nous a donné les coordonnées du gars qui est au Club Med de Bali, et du coup, le gars, il a pu aller faire réparer son bateau, son moteur de bateau, au Club Med à Bali. Donc, c'était un peu bizarre d'avoir le réflexe d'appeler la France pour réparer un bateau quand t'es à Bali, mais ça a marché.
Ouais, ben ouais, canal de diffusion unique, ouais, ouais. Voilà, exactement, ouais. Parce que t'es écouté partout, donc ouais, ça paraît logique en même temps.
Ouais, non mais c'était marrant, c'était surprenant sur le moment, quoi.
Alors, j'ai deux petites questions de gens sur Twitter que j'ai connectés. Alors, Annick-Marie, la globe stoppeuse, tu dois t'en souvenir, la fille aux cheveux roses qui fait du stop. Tu l'as reçue hier, d'ailleurs.
Ouais.
Alors, elle demande, pourquoi est-ce que tu demandes toujours aux néo-nomades s'ils ne sont pas un peu SDF?
Pourquoi est-ce que je demande toujours aux nomades s'ils ne sont pas un peu SDF? Parce que dans le nomadisme, il y a toujours le risque de tomber dans la mendicité. Et je pense qu'il faut faire attention à ça. Il ne faut pas mélanger les deux choses.
Ok, dans quel sens tu veux dire mélanger les deux choses? Les gens qui voyagent avec tellement peu d'argent, qui demandent toujours de l'aide pour tout?
Voilà, il faut faire attention à force de vouloir dire, moi je suis proche des gens, moi j'ai besoin de rien, moi je pars avec pas d'argent, moi je marche sur les routes. Oui, il faut faire attention à pas devenir non plus la personne dépendante des autres. Parce que là, tu bascules, tu deviens une espèce de branleur qui vient d'un pays riche et qui va demander du riz dans un pays pauvre. Il faut faire attention à ne pas inverser. Tu vois ce que je veux dire? Il faut faire attention à ne pas devenir un vrai faux clochard. Il faut rester dans ça. Il faut pas oublier qui on est.
Ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Quand je voyage, j'ai rien contre de payer le prix normal, voilà, pour la nourriture et toutes ces choses-là. C'est vrai que j'ai toujours un peu de la peine quand tu. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup t'offrir dans certains pays, mais il faut faire attention de pas profiter de ça, quoi. Ça devient un peu douteux au bout d'un moment, ouais. Donc ouais, c'est finalement une excellente question. Alors tu vois, moi je l'avais pas compris comme ça, quoi.
Voilà. Je sais pas si elle voulait demander ça.
Ben c'est sans doute. Tu vois, l'analyse que tu me donnes là, moi honnêtement j'aurais pas pu trouver par rapport à cette question. Vraiment pas mal, bonne question. Question de Fred Actisphère que tu as déjà reçu dans ton studio aussi. Quelle différence est-ce que tu vois entre les voyageurs d'avant, alors je pense quand il disait d'avant il y a peut-être une dizaine d'années, et les voyageurs actuels? Parce que toi tu peux aussi faire la timeline de tous ces voyageurs.
Ouais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de voyager qu'il y a on va dire 15-20 ans. Déjà, c'était facile, mais là, maintenant, t'as vu, les billets d'avion ne coûtent plus rien, il y a des backpackers partout, le monde s'est vachement ouvert. Moi, quand j'étais môme, il ne faut pas oublier, tu ne pouvais pas aller... Il y a des tas de pays fermés parce qu'ils étaient, par exemple, sous dictature communiste ou soviétique. Toute l'Europe de l'Est était fermée, toute la Russie était fermée. On ne pouvait pas mettre les pieds en Chine, on ne pouvait pas aller au Cambodge, au Laos, au Vietnam. T'avais des dictatures militaires pro-américaines en Amérique latine. Enfin, il y avait plus de pays fermés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tous ces pays sont ouverts, on peut y aller, ça ne coûte pas cher. Donc c'est facile. Et beaucoup de gens voyagent. Et j'ai l'impression que les voyageurs d'aujourd'hui ne se suffisent plus du voyage en tant que tel. Tout le monde se sent comme obligé de rajouter un petit quelque chose. Alors oui, je vais faire un tour du monde, mais je vais aller dans des orphelinats pour faire des dessins avec des enfants. Je vais faire le tour du monde, mais je vais mettre des articles sur la sauvegarde de la planète en Antarctique. Je vais faire le tour du monde, mais je vais tenir un blog où je vais mettre une photo par jour. Comme s'il fallait faire un truc en plus que le voyage. Comme si le voyage ne suffisait pas. Moi, quand j'ai fait toutes ces histoires de tour du monde, tout ça, bon, moi, c'est pas pareil, parce que c'est vrai que je le faisais. Alors, je critique tout ça, mais je l'ai fait moi-même, puisque je faisais de la radio en même temps. Mais il y avait un côté on est sur la route, ben, ça suffit, c'est déjà assez extraordinaire comme ça, on va pas en rajouter. Et peut-être moins de complexe aussi. J'ai l'impression que les voyageurs d'aujourd'hui, disons des jeunes des 20-25 ans, occidentaux aujourd'hui, ont une espèce de prise de conscience qu'ils sont les privilégiés dans le monde, parce que c'est vrai que bon, ils font partie des 20-30 pays riches qui permettent ce genre de choses, et du coup c'est comme s'ils avaient une espèce de complexe à se promener chez les autres, donc peut-être qu'ils se sentent obligés d'apporter quelque chose, tu vois, comme s'ils voulaient se justifier. C'est plus facile, mais du coup il faut justifier le fait qu'on y soit.
Ouais, c'est intéressant. C'est une bonne remarque, ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, et ouais, justement comme tu dis, peut-être on se sent touché, puis on a envie de changer les choses à notre manière, mais ouais.
Peut-être, ouais, je sais pas. Il y avait, tu sais, alors si on remonte encore aux années 70, là, moi j'étais trop petit, mais tu sais, toute cette génération qui se barrait en minibus pour aller jusqu'à Katmandou, ils se posaient aucune question, quoi. Ils quittaient juste l'Europe pour aller voir ailleurs. On se prenait pas la tête. Là, c'est comme si on voulait politiser ou sociabiliser un peu toutes nos démarches. Alors, c'est bien ou pas bien, j'en sais rien. Et puis, surtout, ce qui est très différent, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde garde contact. C'est-à-dire que tout le monde va mettre... on regarde ses mails, ça c'est Internet, regarde ses mails, remplit un blog, donne des nouvelles. On est tous toujours sur la route, en contact avec nos familles, nos amis, notre point de départ. Donc, la chaîne n'est jamais vraiment coupée. Tu vois, il reste un lien entre nous et là d'où on vient. Moi, un de mes plus grands kiffs en voyage, c'est ce que je disais tout au début, c'est tout à coup n'avoir plus de lien avec personne. Je me souviens, une fois, j'étais au Yémen, au bord de la mer Rouge, dans un petit village, et je me dis, tiens, c'est marrant, là, maintenant, là, tout de suite, personne ne sait où je suis, qui je suis et où je vais. Et même ma famille, mes amis, personne n'a eu de nouvelles de moi depuis 3 semaines, un mois. Et ben, c'est très bien comme ça, c'est parfait. Quand je trouverai un téléphone, j'appellerai peut-être quelqu'un pour dire que je suis toujours en vie. Mais il y avait ce côté où on se perdait plus. Là, c'est marrant, souvent j'ai des auditeurs qui sont... S'ils n'ont plus de liaison Internet pendant 3 jours, c'est un peu la panique, quoi. « Ouais, Eric, j'ai pas pu envoyer de mail, j'ai pas pu consulter mes mails et tout. » Je vais leur dire, « Mais alors, c'est pas grave, quoi, t'as pas pu avoir de mail pendant 15 jours. Et alors ?»
Ouais, c'est vrai que c'est marrant. Là, c'est mon papa qui serait assez d'accord avec ce que tu dis, qui prône aussi le non-contact avec la civilisation de temps en temps. Et c'est vrai que c'est pas mal le fait de se libérer de tout ça. Et du coup, quand on se libère de tout ça, on voit aussi que finalement, c'est pas si important que ça, quoi. Comme tu dis, le kiff et la liberté, ouais, c'est ça qui est important, quoi.
Ouais, et puis c'est marrant ce besoin de... Comme un doudou, tu vois. Comme si on part, mais allez, je vais quand même garder la main de maman dans... Je vais quand même tenir la main de maman, quelque part. J'ose pas lâcher complètement.
Ouais, c'est ça. Puis bon, en même temps, il y a aussi, on se sent obligé par rapport aux autres, parce que dès que tu mets pas un update sur Facebook ou Twitter et que tu voyages, les gens commencent à s'inquiéter. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est paumé quelque part?
C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Alors, je me souviens d'une époque vraiment, vraiment rigolote. Il y avait un plaisir rigolo avant. C'était... Alors là, je fais un peu vieux con, hein, je suis désolé. Mais c'était, tu sais, quand tu te baladais en Asie, et toujours aussi aujourd'hui d'ailleurs, le carrefour, le lieu central, c'était Bangkok. Ouais. Parce que c'était l'endroit le plus facile. Donc, c'est à Bangkok que tu allais pour te reposer, pour faire ton visa, pour te soigner si tu avais une gastro, pour reprendre un peu d'oxydant si tu en avais besoin, t'enfermer dans un hôtel. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et le lieu de rendez-vous pour avoir des nouvelles, c'était la poste restante de Bangkok, je me souviens, où on allait là-bas et il y avait un gars qui avait, des grands casiers avec des tas de feuilles, des tas d'enveloppes avec des petits mots dedans, et tout le monde se laissait des mots. Alors tu fouilles, et puis tu trouvais une lettre à ton nom, tu disais « waouh, ouais, super !» Il y avait un gars que tu avais croisé un mois avant, qui était passé à Bangkok et qui te laissait un message. Et toi, t'en relaissais un pour quand il repasserait. Il y avait un côté comme ça un peu rigolo, tu vois, où t'étais vraiment tout seul. Et les gens que tu connais pouvaient te joindre qu'en laissant des mots à droite à gauche. C'était marrant, ça.
Il faudrait peut-être le faire au niveau web. Il y aurait peut-être un moyen de le faire au niveau d'Internet. Tu vois, à chaque fois un truc que tu te connectes, et il y aurait peut-être moyen de faire un truc comme ça, tu vois, mais en version 2.0, quoi. C'est vrai que c'est pas mal, ça. C'est sympa. Enfin, moi, j'ai pas connu, hein, mais...
C'est contradictoire avec le 2.0. Le 2.0, maintenant, tu as ton téléphone dans la main et tu es joignable tout le temps partout. Donc, ça marche plus. Il faut plus avoir de téléphone. Il faut partir sans téléphone, sans Internet. Enfin, il faut, non, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je sais que si demain j'ai l'occasion de partir, je sais rien, même un mois ou trois semaines, je prendrai rien.
Ouais, c'est pas mal. Je suis assez d'accord avec ça. Peut-être une autre question, justement. Allô la planète, c'est une émission qui parle de voyage, qui met en connexion avec tout le monde. Est-ce que t'as pas eu envie une fois de faire un Allô la planète en direct du Canada, par exemple? Est-ce que t'as pas eu l'idée des fois, si, un peu d'exporter le truc?
Si, bien sûr, j'aimerais beaucoup. D'ailleurs, c'est une idée que j'ai sous le pied là. C'est de délocaliser l'animateur, puisque les auditeurs sont tous partout dans le monde. On fait total concept et on met aussi l'animateur ailleurs. Mais là, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas compliqué techniquement, c'est facile. Mais c'est pour convaincre les patrons de radio d'avoir un salarié qui est à l'autre bout du monde. Même si, tu vois, c'est ce qu'on disait d'ailleurs tout à l'heure sur la mondialisation. Aujourd'hui, je pourrais techniquement et pratiquement être n'importe où dans le monde et ça coûterait pas plus cher à mon employeur français, quel qu'il soit. Mais il faut encore être là, il faut être présent, faut être dans son petit bureau, il faut aller aux réunions, sinon ils ne te prennent pas au sérieux. Donc on en est toujours là, mais ça va bouger. Mais oui, je vais partir.
Ouais, génial, ben, j'espère vraiment que ça pourra se faire pour toi. Alors justement, le Move, la radio, on a entendu qu'il y avait des petits soucis, on sait que les audiences du Move ne sont pas terribles. Et puis ouais, y a par exemple un groupe Facebook qui s'est créé, Sauvons Allô la planète. Est-ce que, si on ose te demander, si tu peux le dire franchement, est-ce que vraiment il y a un danger pour Allô la planète ou pour le Move de rester en ligne?
Allô la planète, c'est une émission de radio, et les émissions de radio sont en danger perpétuel. Voilà, okay. On est en contrat de septembre à juin, tous les ans, c'est comme ça que ça marche, quelle que soit la radio, quelle que soit l'émission, et tous les ans, en juin, ça peut s'arrêter. Et j'ai jamais, alors, moi, Allô la planète dure depuis 7 ans, France Inter et le Move, c'est la première fois que je fais une émission qui dure aussi longtemps. D'habitude, au bout de 2-3 ans, c'est fini, quoi. C'est rare que ça dure. Okay. Donc oui, Allô la planète est en danger, mais c'est normal, ça fait partie du truc.
Ok, est-ce qu'il y a moyen? Alors voilà, nous en tant qu'auditeurs, on adore cette émission, franchement, et elle est tellement unique qu'il faut absolument qu'elle reste. On se dit, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose pour aider? Est-ce qu'il y a des choses qui prennent du sens? Je sais pas, est-ce qu'on envoie des mails? Est-ce qu'on envoie des cartes postales de n'importe où? Est-ce qu'il y a moyen de t'aider, en fait?
Je sais pas. Je dirais, je crois pas. Mais peut-être que je me trompe, j'espère que je me trompe. Mais... Quand une direction de radio a décidé d'arrêter une émission, même s'ils reçoivent 1 million de mails, ils changeront pas, quoi.
Ouais.
Ouais, c'est comme ça, quoi. C'est... Mais si aujourd'hui tout ce qui est Facebook et tout est assez important, donc plus il y a de messages, plus il y a de monde, plus ça peut quand même donner des arguments pour continuer. Ouais, si, quand même.
Quand même, à quelque part. Et je me suis posé la question, par exemple, alors il y a beaucoup. Pas mal de gens qui t'écoutent, et justement tu parlais avant du podcast, et alors je sais pas si c'est le cas du Move, mais beaucoup de radios maintenant, et même de télévision, commencent à prendre le podcast en compte, et notamment Médiamétrie commence aussi à mesurer sur le web, et je me demandais si une solution, ce serait pas aussi que tout le monde, même si on t'entend en direct, de de s'abonner à ton podcast sur iTunes et de télécharger. Parce qu'en fait, s'il y a quelques milliers d'auditeurs qui le font, ben, ça fait toujours ça d'audience en plus, même si c'est d'audience décalée, ça compte quand même. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux comme façon de penser?
Non, c'est juste. Parce que même si aujourd'hui, le podcast est de plus en plus important pour les radios. Donc c'est vrai que plus il y a de podcasts, plus l'émission en question a des chances de durer, c'est vrai. Même si aujourd'hui, l'audience podcast reste minime. Si tu prends la plus grosse audience podcast en France, c'est, je crois que c'est Canteloup sur Europe 1, qui fait 6 millions de podcasts par mois. C'est énorme, 6 millions de podcasts par mois. Mais c'est l'audience de 2 jours en radio.
Exactement, ouais.
Donc c'est vrai que c'est beaucoup de podcasts, mais ça reste 24 heures de radio pour Europe 1. Donc c'est pas si gros, si énorme que ça. Mais c'est quelque chose auquel il faut attention, parce que bah, évidemment, il y a de la pub maintenant sur les sites, donc ils peuvent vendre de la pub autour, tout ça, donc ils commencent à faire gaffe à ça. Mais oui, plus il y a de podcasts, plus je me porte. Ça, oui, on peut le dire. Il faut que tout le monde s'abonne.
Non, mais c'est vrai, on n'y pense pas, mais moi, je pense que ça peut être un moyen simple pour l'auditeur. Vous allez sur iTunes, vous abonnez, même si vous n'écoutez pas, de toute façon, c'est téléchargé automatiquement et ça compte. Et a priori, ben, c'est vrai que quand tu parles de Canteloup, effectivement, ben, bon, déjà, c'est une émission d'actualité donc, qui s'écoute tout de suite. Allô, la planète, on peut l'écouter avec 2 semaines de retard et c'est pas grave. Donc, on peut le télécharger. Oh. Et je pense que ben, voilà, si plusieurs milliers de personnes, de toute façon, ça ne va pas faire de mal pour toi. Quoi. Donc, allez télécharger Allô, la planète.
Absolument, télécharger la planète le plus possible. Non, c'est vrai, ça devient un critère important.
Ok, et justement, alors, pour aller un peu plus loin là-dedans, voilà, comme tu le dis, les émissions radio sont toujours un peu embêtées chaque année et tout ça. Est-ce que tu as jamais eu l'idée de dire, bon, maintenant, on termine tout ça, on fait une web radio ou on se met seulement en podcast? Est-ce que c'est quelque chose d'imaginable ou bien c'est totalement illusoire?
C'est imaginable. Le problème, j'ai déjà essayé, t'imagines bien. J'ai déjà
pensé.
Oui, je
pense aussi, ouais.
Mais le problème, c'est l'argent. C'est-à-dire que j'aurais 25 balais aujourd'hui, je crois que je le ferais. Tu sais, quand j'ai commencé la radio, on était payé avec des queues de cerises. C'était pas grave parce qu'on avait 20 ans, donc on n'avait pas besoin d'argent.
C'est ça.
Ouais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai 3 filles, pour l'instant, tu vois. Donc j'ai des frais incompressibles, comme on dit. Il faut que ça croque. Hein. Et il me faut un salaire. Et le problème des radios internet pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas encore de schéma économique qui permet réellement d'avoir des salariés. Ça va venir, mais j'ai l'impression que c'est encore un peu tôt pour l'instant. Il y a pas. Moi, j'aimerais bien faire demain, si je pouvais, si j'avais du fric, s'il y a un annonceur ou un business angel ou un milliardaire qui ne sait pas quoi faire de son fric qui nous écoute. Je pense que demain, on ferait un site internet Allô la planète. Avec l'émission de radio, mais avec aussi des forums de discussion, des petites annonces, des expositions de photos, enfin bon, tout le truc autour de l'émission, je pense qu'au bout de 2-3 ans, ça fera un carton. Maintenant, qui est là pour investir, c'est-à-dire mettre l'argent pour faire tourner la machine pendant 2-3 ans, autrement dit, un salaire d'un technicien, un salaire d'animateur, disons 2-3 salaires, quoi, pour, même pas énorme, mais 2-3 salaires, voilà. Qui peut investir aujourd'hui sur 2-3 ans?
Ouais, c'est ça le problème. Bah, on a au niveau du podcast, alors je pense que tu connais pas, mais il y a No Watch qui était une société qui a été créée il y a 2 ou 3 ans, qui avait pour le but justement de promouvoir le podcast. Ils avaient quand même eu une vingtaine de podcasts différents, à peu près dans les 500 000 personnes par mois qui les écoutaient, donc quand même une audience pas mal.
Ouais.
Forcément, pas, face aux radios, c'est pas grand-chose, mais quand même pas mal, parce que ça se faisait uniquement sur Internet, et ils ont annoncé il y a une semaine que, ben voilà, ils fermaient, faute de moyens, ils ont essayé, ils avaient aussi 2-3 salariés, et c'est encore compliqué, c'est peut-être encore un peu tôt, quoi, mais ça va arriver.
Oui, bien sûr que ça va arriver, mais pour l'instant, il n'y a pas assez de sous, quoi.
Ouais, et ben voilà, écoute, ça sera peut-être fait d'ici quelques temps. Alors justement, au niveau projet, est-ce qu'on ose te demander si t'as d'autres projets à part Allô la planète, à part ces choses-là, ou sur Allô la planète?
Là, le projet que j'ai pour l'instant, c'est de réussir à faire survivre l'émission l'année prochaine.
C'est déjà pas mal.
Donc voilà, et puis après le reste, oui, j'ai des idées à droite, à gauche, dont je peux pas te parler. Mais j'ai 2-3 idées. De toute façon, tu sais, quand on fait nos métiers, t'es obligé d'avoir des idées tout le temps, hein.
Ouais, tout à fait, ouais, parce que ben ouais, de toute façon t'es pas sûr de ton truc, donc il faut continuer. Mais c'est excellent, enfin ça fait toujours plaisir, je trouve, de voir des gens qui ont des idées, des gens qui. Et nous on est impatients de voir ce que ça va donner, quoi, parce que t'as quand même l'expérience pour ça. Non mais t'as l'expérience, voilà, tu dis quand on a 20 ans on se lance, alors quand on a 20 ans on se lance, mais on se lance sans savoir où on va. Quand on a un peu plus d'expérience au niveau de la radio et du voyage, quand même un joli potentiel, quoi.
Oui, bien sûr, mais c'est-à-dire que là maintenant l'équation elle est plus compliquée. Elle est plus compliquée. C'est-à-dire quoi, là, il faut l'idée et puis il faut la personne en face pour mettre un peu de sous. Voilà. Et encore, moi je cours pas après l'argent, hein, mais.
Bah, il en faut pour vivre, hein, ma foi.
Mais voilà, il faut payer le loyer, il faut remplir le frigo, faut payer les impôts, enfin, un truc de base. Hein.
Ouais. Alors peut-être, je ne vais pas te prendre plus longtemps parce que tu as une émission à faire. Dernière question, à tous ceux qui nous écoutent, qui sont des amoureux du voyage, qu'est-ce que tu aurais à dire ? Message personnel pour eux tous.
Voyager. Allez-y. non, mais franchement, allez-y, quoi. Si vous écoutez l'émission, vous le savez, finalement, c'est beaucoup plus facile que ça n'en a l'air. Et n'hésitez pas, lancez-vous, allez-y, allez faire des trucs. Le terrain de jeu est immense. On n'est plus dans un seul pays, on est dans un seul monde. Donc tu te rends compte le terrain de jeu qu'il y a là. Putain, j'aurais 20 balais aujourd'hui, mais j'irais bosser. Bon, non, en plus, je l'avais fait déjà à l'époque, mais là, c'est incroyable tout ce que tu peux faire aujourd'hui. Il y a une liberté d'action géniale, il faut en profiter. On ne sait jamais combien de temps ça va durer. Donc allez-y, là, les frontières sont ouvertes. Vous avez la chance d'être né du bon côté de la barrière. Autrement dit, d'avoir un passeport européen ou américain ou canadien qui vous permet d'aller dans le monde entier, que vous pouvez avoir pour une somme modique. Et vous êtes libre, vous êtes jeune, vous avez un passeport. Allez-y. Ce serait gâché. Après, vous vous réveillerez à 45 balais avec 3 gosses et ce sera plus compliqué. Donc allez-y.
Ouais, ben, je suis assez d'accord. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai, George. C'est vrai que c'est cool. Et que, enfin, là, Allô la planète, c'est aussi la preuve qu'il y a beaucoup de gens qui le font, que c'est possible. C'est pas forcément facile tous les jours, mais que c'est vraiment possible. Et ouais, c'est vraiment un truc à faire. Alors, merci bien d'être passé sur VoyageCast. Je vais te laisser parce que Allô la planète commence dans pas très longtemps et tu dois encore préparer le truc. Merci vraiment d'être venu sur VoyageCast. C'était un vrai plaisir. Et puis, ben voilà, écoutez Allô la planète. C'est une meilleure émission sur le voyage qui existe et elle est unique, quoi.
Ben merci. Et puis, quand tu veux, une prochaine fois.
Ok, bon super. Voyage.
Salut.
Merci. Ciao.
À la prochaine. Ciao.
Monsieur, bonjour. Je voulais savoir comment on fait pour devenir animateur radio.
Oh bah, je sais pas, il y a plein de... T'as les radios locales pour commencer, il y a Internet aussi. Moi quand j'ai... Merde, pardon, excuse-moi. J'ai commencé, j'avais mon radio cassette, tu sais, je m'enregistrais dessus.
Bah moi je m'enregistre sur ma webcam, mais c'est relou parce que j'aime pas me voir.
Ah ouais, et c'est quoi, qu'est-ce que tu fais sur ta webcam, c'est...
Bah je parle avec cette voix des fois.
Pas mal.
Et encore merci à Eric Lange d'être passé sur VoyageCast, c'était vraiment très agréable et j'espère que vous aussi vous avez apprécié ce petit moment d'interview. Comme on l'a dit pendant l'émission, n'hésitez pas à faire un petit like Facebook et de vous abonner à l'émission sur iTunes, ça ne vous coûte rien et comme on l'a dit, à l'heure des audiences radio qui se comptent de plus en plus sur Internet, ça peut toujours être utile et puis au pire, ça sert à rien et vous aurez rien perdu du tout. Pour ce qui est des films de VoyageCast, eh bien le premier extrait vient du film Envoyés très spéciaux avec Gérard Lanvin et Gérard Jugnot, un film que j'ai choisi parce que Gérard Lanvin est justement un homme de radio, un reporter, et puis Gérard Jugnot est un technicien. Alors qu'est-ce qui se passe pour faire le pitch de ce film ? Assez marrant quand même. Ils sont censés partir en Irak pour faire un reportage, et puis comble de malchance, Gérard Jugnot se trompe de lettre et envoie l'argent et leurs billets à la poubelle. Du coup, sans argent et sans possibilité d'aller en Irak, eh bien ils vont se réfugier chez un ami et puis faire de là des émissions radio comme s'ils étaient en Irak. Je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment marrant, c'est sympa à regarder, et puis surtout, j'adore vraiment la voix de Gérard Lanvin dans ce film. Magnifique, profonde, vraiment la voix d'un homme de radio. Le deuxième film, tout à fait logique, c'est Radio Star, un film sorti il n'y a pas très longtemps avec Clovis Cordillac, par exemple, un film qui regroupe pas mal d'acteurs sympas qu'on a déjà vus dans certains autres films, avec des comiques aussi, un film que j'ai beaucoup aimé, une sorte de road movie, où en fait cette équipe radio, qui est la première radio de France, se voit rétrogradée en place 2, et se doivent donc d'aller reconquérir les citoyens en allant les visiter. J'aime bien les dialogues, c'est marrant, c'est sec, c'est parfois un peu méchant, mais c'est vraiment excellent. Et puis surtout, on a vraiment l'impression qu'ils font tous de la radio, et puis on voit aussi le rôle qu'ont les écrivains derrière ces hommes de radio. Bref, un film vraiment chouette à regarder, un dimanche de pluie, pas de quoi se casser la tête ni de remettre en question le monde, mais vraiment de quoi passer un très bon moment. Pour la suite, pas grand chose à dire, mis à part que le premier pilote de Balado Suisse est sorti. Si vous habitez la Suisse, je vous invite vraiment à l'écouter et à me donner vos retours. Il y aura certainement un deuxième épisode, il y a déjà une ou deux blogueuses qui m'ont certifié qu'elles viendraient avec grand plaisir. Une petite exclue aussi, puisque vous écoutez jusqu'à la fin, nous avons enregistré pas plus tard qu'avant-hier un nouveau concept d'émission qui sera relié à VoyageCast et à la web radio Mix City, une radio sur le voyage. Je vais pas trop vous en dire, mais c'est une émission où on sera beaucoup plus que sur Voyagecast. On l'a enregistrée, il nous faut encore pas mal de temps pour la traiter avant de la diffuser, mais vous en aurez des nouvelles. Et ouais, je dois dire qu'à la fin, on a tous été contents et globalement, on pense que ça va vraiment être une émission qui va vous plaire. J'espère que ce sera le cas. Vous en saurez plus dans les prochaines semaines. La prochaine émission, eh bien, ce sera sur le Japon. Les deux prochaines émissions seront sur le Japon. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a enregistré avec Misaki. Et puis, vous l'aurez peut-être remarqué dans le premier épisode qu'on avait fait sur le Japon, on parle beaucoup. Et c'est normal parce que le Japon, il y a plein de trucs géniaux à faire. Et puis, on a plein de questionnements qui se posent autour. Pour tout vous dire, on a fait une émission de 3 heures. Alors là, je me suis posé la question, est-ce que je la mets directement en une fois ? Et puis vous êtes quand même pas mal à dire que les émissions, globalement, sont déjà assez longues. On n'a plus l'habitude d'écouter des émissions aussi longues, parce qu'à la radio, une émission, ça dure quoi ? Une demi-heure, une heure à tout casser ? Dès que ça dépasse l'heure, l'heure et demie, et ben vous nous dites que c'est trop long. Alors du coup, on l'a coupé en deux, parce que je trouverais vraiment dommage que vous n'écoutiez pas l'émission en complet. Alors ce sera coupé en deux, avec une première et une deuxième partie, toujours avec Misaki, toujours sur le Japon. Les trucs bizarres du Japon, ce sera sur les deux prochains épisodes. Je vous invite d'ores et déjà à vous tenir prêt à les écouter. Et puis en attendant, le soleil est en train de pointer, alors, comme dirait Eric Lange, voyagez, voyagez, bougez-vous. Allez, à ciao, bonsoir.
Je vais, où je vais, je sais pas où je vais. Si, si, si je savais, si seulement je savais où j'allais. Aujourd'hui encore, je fuis encore, je cours toujours. Je tourne autour. Oui, non, dans le si, je fais semblant. Où est-ce que j'ai envie? Loin ou près, ou très loin, tout compte fait, je sais pas d'où je viens. Aujourd'hui encore, je fuis encore, je cours toujours, je tourne autour. Aujourd'hui encore, je fuis encore, je cours toujours. C'est mon parcours.
Merci Léonard, super moment, super. Ça c'est du rap comme on aime, hein, on pourrait dire.
Ah, c'est mon préféré.
Bah voilà.